Il est 8h.
Je vais pas rester bloqué ici, hein. On bouge pas ici, alors. Non, 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 je préfère partir.
Et alors, à l'île de Ré, c'est quoi le programme?
Oh, bah déjà, il y a des grandes marées, là.
Une marée de voyageurs dans les gares parisiennes ce matin pour éviter les affres du troisième confinement. Les billets de TGV se sont arrachés hier soir. Après un an d'efforts et de restrictions, le moral des Français est touché, même celui des enfants. Notre invité dans ce journal, le psychiatre Serge Effèze. Le coup de massue est aussi économique pour les commerçants et même pour les finances publiques. 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le quoi qu'il en coûte va-t-il tenir quoi qu'il arrive? Mais quoi qu'il en soit, la facture risque d'être très salée et quoi qu'on en pense, je vous le dis, les Français ne veulent pas la payer. Mon invité, vous l'avez compris, s'occupe de cette facture. C'est le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt.
Et on vous retrouve à 8h15. Et puis l'actualité va aussi nous faire du bien. La musique de Ringo Starr, l'ancien batteur des Beatles. Un mini-album dévoilé cette nuit. Il nous en parle sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec vous, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. C'est ce qui s'appelle souffler le chaud et le froid. Freiner sans enfermer. C'est le nouveau concept détaillé par Jean Castex. Freiner la vie de 21 millions de Français en ressortant l'attestation de déplacement, les motifs impérieux pour quitter sa région, la jauge réduite dans tous les lycées. Mais à côté de ça, la promenade, ce sera dans un rayon de 10 km et surtout sans limite de temps. Mais tout de même, freiner sans enfermer, on peut dire que les Parisiens ont reçu le message à grande vitesse en réservant en masse des billets de TGV pour ne pas se laisser enfermer.
Bonjour Damien Maistre.
Bonjour.
En direct pour Europe 1 de la gare Montparnasse à Paris qui dessert toute la côte atlantique, la gare Montparnasse. Le reconfinement commence ce soir et beaucoup de monde quitte la région ce matin.
Ouais, on a un peu l'impression d'être un jour de départ en vacances. Il y a du monde, des gens chargés de valises. Et vous le disiez, la grande majorité ont pris leur billet à la dernière minute comme Dominique.
On a regardé la télé à 19h, on a vu l'allocution du Premier ministre et on a pris la décision de partir, se mettre au vert et de pouvoir profiter un petit peu plus de l'espace.
Il y a un peu deux catégories de personnes ici. D'abord, les plus jeunes qui rentrent télétravailler dans leur famille. C'est le cas de Mathieu, direction la Loire, 4 semaines au vert chez sa grand-mère.
Ah ouais, elle est absolument contente et moi je suis ravi aussi de la voir. J'avais pas pu la voir pendant quelques mois comme elle n'était pas encore vaccinée, donc voilà, c'est l'occasion.
Et puis d'autres à la retraite, comme Claude qui profite d'une maison secondaire à l'île de Ré. Pour lui, 4 semaines c'est vraiment le strict minimum.
À mon avis, je vais rester plus longtemps. Je vais pas rester bloqué ici. On bouge pas ici. Alors. Non, 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 je préfère partir.
Et alors, à l'île de Ré, c'est quoi le programme?
Oh, bah déjà, il y a des grandes marées, là. Alors, on va pouvoir aller à la pêche. Ah, voilà, déjà.
Il risque donc de croiser pas mal de Parisiens pendant sa partie de pêche. Ici, les trois quarts des trains à destination de La Rochelle affichent aujourd'hui totalement complet.
Damien Maistre en direct pour Europe 1, gare Montparnasse à Paris. Rappelons que c'est toute l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes qui sont reconfinés pour 4 semaines.
Bonjour Serge Effèze.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce troisième confinement, c'est un coup de massue?
Oui, absolument. On avait reçu un coup de massue il y a un an, tout le monde s'en souvient. Tout ça a créé un traumatisme. On commençait peut-être à mettre un peu la tête hors de l'eau avec le vaccin, les espoirs de vaccin. On commençait à nous dire qu'on allait revenir à la normale d'ici un mois ou deux. Et puis hop, c'est reparti. On a de nouveau la tête sous l'eau là.
Oui, il y a comme un effet de répétition. On a subi pendant un an ces conférences de presse toutes les semaines. On ouvre, on referme. C'est presque un supplice chinois.
Ah oui, c'est épuisant, supplice chinois, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est comme quand on vous sort la tête de l'eau, hop, vous prenez une grande respiration et puis bloum, on vous remet la tête sous l'eau et ainsi de suite. Moi, je vois bien à quel point ça fait des semaines, voire des mois, que l'état psychologique des Français et surtout des jeunes est calamiteux. Les gens vont très mal. J'ai la sensation là d'un burn-out généralisé, si vous voulez. Les gens sont au bout de leur force. Ils sont même résignés. Ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus d'envie. Et je me dis que ce nouveau coup de massue, voilà, ça va être vraiment dramatique.
Serge Effèze, vous êtes surtout préoccupé par la jeunesse. La Société française de pédiatrie parle de hausse des tentatives de suicide et de déferlement d'enfants qui vont mal.
Oh oui, mais vous savez, moi, je travaille dans un service de pédopsychiatrie. À la fin de mes journées de consultation, je vous assure, il y a des fois, j'ai envie de pleurer parce qu'ils vont tellement mal, ces enfants. Ils subissent tout, ils subissent le désarroi de leurs parents, parfois la violence de leurs parents, une violence psychologique. Mais je leur jette pas la pierre parce que les parents sont à bout. Ils ont perdu tout leur repère habituel. Et effectivement, il y a une augmentation massive des tentatives de suicide chez les enfants. Il faut le savoir, il y a une augmentation massive des dépressions, de l'anxiété, des phobies, de violence chez les jeunes. Alors bien évidemment, on peut sortir davantage que dans le premier confinement, ça veut dire qu'on peut se réunir à l'extérieur davantage. Essayons toujours de voir le positif, mais franchement, moi je redoute mes consultations dans les semaines à venir.
Serge Effèze, merci beaucoup. Serge Effèze, psychiatre, merci. Invité du journal de 8h d'Europe 1 ce matin.
Vous vous souvenez de la polémique sur le terme non essentiel et sur l'obligation de fermer avec des bâches ou même de simples cordons certains rayons des supermarchés? Eh bien c'est reparti. Dans les 16 départements reconfinés, seuls les commerces de première nécessité ainsi que les libraires et disquaires pourront rouvrir.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Alors cela fait un an que vous suivez l'état de santé fébrile de nos entreprises et plus particulièrement des commerçants. On peut dire ce matin qu'ils vivent une nouvelle catastrophe.
Oui, parce que c'est un nouveau coup dur pour ces commerçants. Et hier soir, au moment de l'annonce, beaucoup d'entre eux étaient sonné comme Philippe Chéilly, il est propriétaire de deux boutiques de chaussures à Paris.
Le premier confinement, ce fut crochet droit. Le second confinement, ce fut crochet gauche. Aujourd'hui, troisième confinement, c'est un uppercut et je me dois de rester debout. Nous avons reçu 80% des collections. Sur ces 80%, il y a bien entendu une bonne partie qui est de la marchandise d'entrée de saison. Il va falloir la financer pour la stocker.
Alors même inquiétude du côté des magasins de vêtements, c'est encore une collection entière là aussi qui pourrait rester dans les réserves. Une collection de trop, disent beaucoup de petits commerçants exsangues. Chez les fleuristes, il va encore falloir jeter de la marchandise. Mais bonne nouvelle, les coiffeurs vont rester ouverts, en tout cas selon le porte-parole du gouvernement. Alors, beaucoup de ces commerçants vont pouvoir faire du click and collect, mais c'est très loin de compenser les ventes perdues. En tout, 110 000 commerces vont devoir laisser le rideau baisser dans les zones concernées. Bercy s'attend à verser au moins 1,2 milliard d'euros d'aide en plus pour les soutenir. Ce nouveau confinement devrait coûter 0,2 point de plus à l'économie, ce qui va encore un peu plus bloquer la reprise pourtant tant attendu pour cette année.
Emmanuel Duteil, merci. Et on va le redire, Europe 1, c'est aussi un parti pris positif et d'action face à cette crise. Avec vous, Emmanuel, et avec Elisabeth Assayac, tous les jours dans La France bouge à 13h. Il y aura encore des emplois à pourvoir aujourd'hui dans votre émission. Une cinquantaine de postes avec le DRH de l'association Agir, Soigner, Éduquer, Insérer, invité en direct à 13h50.
Et on va le redire, les coiffeurs peuvent rester ouverts. Merci Emmanuel Duteil. Voilà pour tous ceux qui ont pensé à aller chez le coiffeur cette semaine. Ça ne servait à rien de vous dépêcher. Alors vous restez avec nous. C'est théoriquement dans moins de 3 mois. Est-ce qu'on pourra maintenir les élections régionales et faire campagne avant cela?
Et puis notre cadeau de la nuit, les mots et l'album de l'un des Beatles.
A tout de suite sur Europe 1, 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
Le pari peut-il être tenu, celui d'organiser des élections régionales dans moins de 3 mois, les 13 et 20 juin, surtout quand on sait l'enjeu de cette échéance pour les présidents sortants des deux régions qui sont reconfinées, Valérie Pécresse en Île-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. L'exécutif n'est pas inquiet, Aurélie Herbemont.
Au moment où on parle, les élections auront lieu en juin. L'Élysée cherche à rassurer. Jusqu'ici, pas de scénario alternatif, malgré une petite musique insistante. Un proche du chef de l'État lâche. Elles se tiendront, sauf situation exceptionnelle. Une ministre avoue n'avoir aucune certitude. Début avril, le Conseil scientifique donnera son avis. Lancer la campagne avec deux régions confinées, impossible, prédit un conseiller ministériel. Mais l'opposition veut voter, à l'image de Julien Bayou, patron des Verts et candidat en Île-de-France.
Les organisations politiques s'adaptent et font preuve de créativité. On peut faire campagne sous couvre-feu, même sous confinement. Il n'y a pas lieu de confiner la démocratie.
Même sentiment pour le vice-président de LR, Gilles Platret, tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté.
Si au mois de janvier de l'année prochaine, on n'est pas sorti encore de ce contexte épidémique, on va se dire quoi? Il faut reporter l'élection présidentielle? On prolonge le mandat de M. Macron? Vous croyez qu'à un moment donné, on ne peut pas réagir quand même en exigeant simplement le respect de la démocratie?
Les partis politiques seront de toute façon consultés à la recherche d'un hypothétique consensus.
Retenons tout de même la bonne nouvelle d'hier soir. La vaccination va pouvoir reprendre son rythme de croisière.
Oui, le produit d'AstraZeneca de nouveau autorisé sous réserve d'un ultime avis de la Haute Autorité de Santé ce matin. Jean Castex lui-même donnera l'exemple cet après-midi en recevant sa petite piqûre. Aux États-Unis, ce sont 100 millions d'injections qui ont été faites. Objectif tenu, se félicite Joe Biden au 58e jour de son mandat.
Le président américain qui est aussi rentré dans le dur de la diplomatie. On a parlé de Vladimir Poutine qui veut organiser un débat en direct sur Internet. Mais il y a aussi la Chine.
Et ce sommet entre Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, et son homologue chinois, c'était il y a quelques heures à Anchorage, en Alaska. Glaciale discussion, le secrétaire d'État des États-Unis adopte un ton très calme. Mais vous allez voir que les dossiers qu'il met sur la table sont autant de points de friction directs avec Pékin.
Nous allons discuter de nos profondes inquiétudes au sujet de la Chine, s'agissant du Xinjiang, de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre nos alliés. Chacun de ces actes menace l'ordre fondé sur des règles qui garantit la stabilité mondiale.
Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Et puis, comme promis, nous sommes ce matin avec un jeune homme, 80 printemps quand même.
Ringo Starr, l'ancien des Beatles, a travaillé pendant cette épidémie via l'application Zoom, comme une partie du monde. Mais là, il faut imaginer Paul McCartney sur un écran, Ben Harper sur l'autre, Lenny Kravitz sur le troisième et Ringo Starr, qui confie à une poignée de journalistes, dont Angèle Châtelier d'Europe 1. Il leur parle toujours sur Zoom, il leur dit comment il a travaillé cet album sorti cette nuit et intitulé Zoom In.
Avec ce mini-album, vous savez, j'ai pris la décision d'être le producteur. Je joue de la batterie, je chante, mais je n'avais pas tout à faire. Les autres faisaient tout depuis chez eux, je n'avais pas besoin d'être à l'écriture ou de co-écrire. C'était des amis, vous savez. Donc c'était facile. Je leur disais, regarde, j'aime bien ce... L'année dernière a été vraiment difficile pour tout le monde, je crois. Je préfère jouer sur scène, mais jouer par visio, c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. On est obligé d'accepter ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que cet album Zoom In est né. Passez une bonne journée ou une bonne nuit, selon où vous êtes dans le monde, et je vous envoie plein de paix et d'amour. Merci.
C'est très officiellement la bande-son de nos 4 prochaines semaines. Zoom In, l'album de Ringo Starr que vous aurez entendu d'abord sur Europe 1 ce matin.
On a quand même de la chance. Hein. On est en 2021. Il ne reste que 2 Beatles, mais ils continuent à sortir des albums. Ringo Starr ce matin dans le journal de 8h d'Europe 1. Merci François Geffrier. Il est 8h14. Dans un tout petit instant, Sonia Mabrouk et son invité, le ministre délégué en charge des comptes publics, Olivier Dussopt. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le ministre délégué en charge des comptes publics, Olivier Dussopt.
Bienvenue à vous et bonjour, bonjour. Olivier Dussopt. Qu'est-ce que vous avez contre les commerçants?
Nous n'avons rien contre les commerçants, nous sommes à leur côté et nous resterons à leur côté. Les commerçants ont envie de travailler, c'est normal, je les comprends. J'ai moi-même de la famille commerçant, ils ne demandent que cela. Et nous avons une situation épidémique, nous avons des contraintes qui doivent s'imposer, des restrictions. Ça nécessite des décisions qui sont très douloureuses et qui le sont en particulier pour eux. Mais nous restons à leur côté, nous continuerons à les aider.
Mais quelle logique, monsieur le ministre? Parce que pour les 16 départements confinés, pas de limitation de temps aux sorties des citoyens, mais la sanction de la fermeture pour les petits commerces en très grande souffrance.
Il ne faut pas dire sanction. Il ne faut pas dire sanction.
Ils
le vivent ainsi, mais ça n'est pas une volonté de sanction. Loin s'en faut. Je le répète, nous resterons à leur côté. Nous avons mis en place des dispositifs d'aide, d'aide qui sont des aides massives, avec le fonds de solidarité, avec les exonérations, avec l'activité partielle. Tout ça reste et nous garderons ces dispositifs aussi longtemps qu'il y aura des restrictions.
C'est-à-dire que vous dites ce matin que le quoi qu'il en coûte va se poursuivre quoi qu'il arrive.
Le quoi qu'il en coûte va se poursuivre tout au long de la crise épidémique. Nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales difficiles, dures pour les commerçants en particulier, pour l'économie en général. Et nous avons la chance, d'une certaine manière, d'avoir les moyens de faire face, de pouvoir financer les aides que nous mettons en place. Quand la crise sera finie, quand l'épidémie aura été jugulée et que l'activité redeviendra une activité normale, alors il sera le temps de débrancher progressivement les aides. Mais nous sommes dans une période de crise et nous resterons aux côtés des entreprises, des Français, des commerçants, aussi longtemps qu'il le faut.
Alors comment très concrètement, parce que ce matin, de nombreux élus des départements confinés réclament, Olivier Dussopt, des aides supplémentaires, rapides, concrètes pour les commerçants pénalisés. Est-ce que vous pouvez faire plus que le quoi qu'il en coûte actuel ?
Nous avons un dispositif d'aide qui a été arrêté pour les mois de novembre, dernier mois de confinement, qui a été renforcé au mois de décembre avec la possibilité d'être aidé à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, en plus de l'activité partielle. Et nous avons encore renforcé ce dispositif d'aide il y a quelques jours pour les entreprises qui ont la particularité d'avoir des coûts fixes très importants. Nous veillons avec Bruno Le Maire à ce que tous les commerçants puissent être accompagnés. Et nous avons un dispositif qui est coûteux pour les finances publiques, puisque avant les décisions d'hier soir, nous étions sur un coût d'à peu près 6 milliards, 6 milliards 5 par mois. Et les décisions annoncées hier soir représentent un coût supplémentaire d'1,2 milliard pour chaque mois. Nous devrons vivre comme ça en espérant que ce soit le plus court
donc,
possible.
Donc 1,2 milliard en plus par mois, c'est 0,2 points de PIB annuel. Ça, c'est la version un peu soft, optimiste.
Ça n'est pas tout à fait ce calcul-là. Quand nous parlons d'un impact de 0,2 points de PIB, de 0,2 points de croissance, c'est pour traduire les conséquences sur la croissance économique du confinement dans 16 départements annoncé hier soir. Nous avons une prévision de croissance qui est à 6%. Notre estimation est que les décisions annoncées hier soir pourraient nous coûter 0,2 points. Moi, je reste convaincu que le 6% est atteignable. J'en suis convaincu.
Attendez,
parce que...
je ne comprends pas, il y a eu hier des annonces supplémentaires, un confinement quand même pour 16 départements, et malgré tout, vous gardez la même prévision de croissance.
Nous gardons la même prévision de croissance, puisque nos estimations nous laissent penser que les décisions annoncées hier soir représentent 0,2 points, donc ça sera un passage de 6 à 5,8. Mais nous avons aussi des motifs d'espoir du point de vue économique. Je mesure bien la difficulté sanitaire,
donc ce matin,
les difficultés rencontrées.
Le ministre en charge des comptes publics nous dit qu'il y a des signes d'espoir, alors que 16 départements vont être confinés, qu'on est parti pour 4 semaines, voire plus.
Je répète, pour être très clair, je sais la difficulté de la situation sanitaire, je sais la difficulté rencontrée par les commerçants. Nous avons des indicateurs économiques qui, malgré la crise, malgré les difficultés, nous donnent des motifs d'espoir sur la capacité de rebond et la capacité de relance de l'économie française.
Par exemple,
au mois de janvier, la TVA que l'État a encaissée, qui est un versement quasi automatique, est 2 milliards supérieure à notre prévision. Elle s'élève à 19,4 milliards. C'est peu ou prou, à quelques dizaines de millions d'euros près, le même montant que ce que l'État avait perçu en janvier 2020, avant le début de la crise Covid. Donc ça signifie que l'économie résiste. De la même manière, au troisième trimestre 2020, nous avons connu une très forte croissance. Au quatrième trimestre, l'investissement des entreprises a résisté. Et donc, nous sommes dans une situation qui est difficile, je le répète.
L'économie résiste, mais les Français résistent de moins en moins. Je vous donne un exemple concret, parce que les secteurs qui sont très fortement touchés sont ceux du tourisme, de la restauration, de l'aéronautique. Est-ce que vous dites ce matin que l'accompagnement se prolongera bien au-delà de la fin des mesures de restriction ?
Nous savons qu'un certain nombre de secteurs, vous les avez cités, l'événementiel, l'aéronautique, évidemment l'hôtellerie, les cafés et la restauration, mais il y en a certainement d'autres moins exposés médiatiquement, qui vont connaître des difficultés au-delà de la crise épidémique. Au-delà de la fin de l'épidémie, ces secteurs seront en difficulté. Tout à l'heure, j'ai dit qu'à la fin de la crise épidémique, il faudra débrancher les aides progressivement. Progressivement, c'est aussi faire attention.
Mais vous pensez que c'est le moment aujourd'hui, ce matin, de nous dire à ce micro qu'on va commencer à débrancher les aides quand la crise, alors qu'on ne voit même pas le bout de la fin du tunnel.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne commence pas en disant nous allons débrancher. Je dis quand la crise sera terminée, il faudra commencer à débrancher progressivement.
Mais pourquoi tenez-vous à le dire ? On dirait que vous cherchez à envoyer un message, peut-être d'ailleurs à l'Europe, à Bruxelles, qui nous demande davantage d'efforts et de lever le pied sur tout ça.
Tout simplement parce que c'est d'abord ma responsabilité de le dire, puisque après la crise, il faudra revenir à un niveau plus soutenable de dépenses publiques. Nous avons confié un certain nombre de travaux à une commission présidée par Jean Arthuis. Les parlementaires, la Cour des comptes se penchent sur ce sujet-là. Et il serait surtout irresponsable de ne pas le rappeler. Et donc, il faut savoir préparer la sortie de crise. Mon collègue Alain Griset prépare avec les restaurateurs
vous savez,
des protocoles d'ouverture.
Que nous avons, que beaucoup de Français ont, c'est la double peine. C'est-à-dire on subit les restrictions et en plus, c'est nous qui allons payer la facture, la fameuse dette par une augmentation des impôts.
Nous avons dit et répété, et je le répète à nouveau, que nous ne voulons pas augmenter les impôts.
C'est pas parce que vous le répétez qu'on va le croire.
Ça, c'est votre perception.
Non, c'est ce qui est dit dans les sondages. 76% des Français ne croient pas en la promesse de non-augmentation des impôts.
Laissez-moi donner deux explications ou deux raisons pour convaincre, s'il faut convaincre. La première, c'est ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat. C'est-à-dire la plus grande baisse d'impôts qui n'ait jamais eu lieu. À la fin du quinquennat, avec les mesures qui sont annoncées, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros en France. La moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Et nous considérons que sortir de la crise économique relancer l'activité ne passe pas par une augmentation d'impôts. Nous considérons que la meilleure façon de rembourser la dette que vous avez évoquée, c'est de provoquer de la croissance et que quand on augmente les impôts, on ne provoque pas de croissance.
Et oui, mais il faudra l'arracher peut-être avec les dents, cette croissance. Dites-nous, monsieur le ministre, sur un an, le coût total de l'épidémie, c'est 170 milliards d'euros. C'est presque 7% du PIB. Pourquoi, et je vais reprendre une expression que vous connaissez bien, ce pognon de dingue, il n'est pas aussi dépensé pour ouvrir des lits de réanimation qui sont les juges de paix de ce confinement?
Vous avez raison sur l'estimation et les 160-170 milliards que vous évoquez correspondent au passage d'un déficit un peu plus de 2 à presque 10%. Vous évoquiez la question de la santé. Nous avons, au cours de l'année 2020, augmenté les dépenses de santé, et c'est normal, c'est légitime, de presque 20 milliards d'euros. En plus de ce que nous avons intégré dans les accords de Ségur négociés par Olivier Véran.
Non, les lits de réanimation, tant d'argent pour soutenir l'économie. Pourquoi ça ne va pas pour la création de ces lits qui sont confine aujourd'hui.
Le Premier ministre l'a dit hier, et Olivier Véran aussi. À chaque fois que des capacités de réanimation sont ouvrables, elles sont ouvertes et les personnels hospitaliers se démènent avec les administrations de la santé pour le faire. Nous pouvons aussi dire et avoir un discours de raison et rappeler que ouvrir des lits, c'est bien et c'est nécessaire, nous le faisons. Il faut aussi qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des réanimateurs.
La Cour des comptes,
et que ceci
je
ne
sais
se
que vous penchez sur ces rapports,
jours.
Monsieur le ministre des Comptes publics. La Cour des comptes estime que les services de réa étaient très mal préparés. Allez-vous engager une réforme d'urgence?
Alors, d'abord, en matière de santé, des réformes, nous en faisons. Olivier Véran est à la tâche. Il faut d'abord saluer les personnels de santé, parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Et la Cour des comptes a pointé que l'hôpital, avant cette crise Covid, a subi pendant 20 ans, plus de 20 ans même, des restrictions financières et un encadrement, une forme d'austérité. Je le répète à nouveau.
Ça n'exonère pas votre responsabilité. Alors, dans les 20 ans, vous y êtes aussi.
Exactement. Mais je souligne que de 2017 à 2020, avant la crise Covid, le niveau d'évolution des dépenses de santé était déjà plus élevé que les 10 années précédentes, que nous avions annoncé avec Agnès Buzyn à cette époque-là un plan hôpital à l'automne 2019.
C'était un autre monde,
et
déjà,
que par ailleurs,
quand on nous parlait de ce nom.
Je souligne à nouveau les effets, les engagements pris à l'occasion du Ségur qui sont mis en œuvre, ainsi que l'augmentation légitime, je le répète, des dépenses pour faire face au
Olivier
Covid au cours de l'année 2020.
La sortie de crise dépend surtout, bien sûr, de la vaccination et de son rythme encore très poussif en France. Il va y avoir la reprise du vaccin AstraZeneca avec malheureusement un manque de confiance. Mais combien d'ailleurs nous coûte, puisque vous êtes le maître des chiffres, la vaccination? Est-ce que cela a un coût?
La vaccination a un coût comme les tests ont un coût. C'est l'occasion de rappeler que la France est un des seuls pays à permettre à ses ressortissants, à ses habitants, de ne pas payer les tests, avoir une gratuité totale. Et c'est à souligner, l'année passée, les tests, en 2020, ont coûté à l'État, à la Sécurité sociale, mais à travers elle l'État, un peu plus de 2,6 milliards d'euros. Pour la vaccination, nous avons inscrit dans le budget 2021 1,5 milliard de provisions. Ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher, mais lorsque nous avons inscrit ce 1,5 milliard...
Ça coûtera plus cher parce que vous n'avez pas prévu que tant de gens voulaient se faire vacciner?
Non, ça coûtera plus cher parce que lorsque nous avons inscrit cette provision, c'était fin septembre, c'était un moment où nous ne savions même pas à quelle date les vaccins seraient prêts. Nous pensons que ça coûtera entre 3 et 4 milliards d'euros, mais c'est le meilleur des investissements qui soit.
Ah oui, c'est le quoi meilleur... qu'il en coûte vaccinal. Hein.
C'est le meilleur investissement pour la santé et pour l'économie et pour la France. Et donc... s'il y a une dépense sur laquelle il ne faut absolument pas mettre de frein, c'est la vaccination. Vaccinons-nous.
Bien, c'est intéressant. Vous nous dites le coût de la vaccination, mais dites-nous combien, monsieur le ministre, nous coûte en points de PIB les retards, les jours de retard en vaccination. Ça nous pénalise par rapport à d'autres économies et pays efficaces dans leur campagne, j'imagine.
Le Premier ministre l'a rappelé hier. Il y a, indépendamment de cette parenthèse sur AstraZeneca, un rythme de vaccination qui va permettre de tenir les engagements qu'il avait pris. Et donc, il faut tenir cette trajectoire. Mais il faut que la vaccination soit au rendez-vous.
Oui. Mais vous êtes d'accord que, par exemple, par rapport aux économies, aux autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, Israël, ils vont voir leur économie repartir et nous, plus lentement?
Je pense, et je le répète, que notre économie va bien rebondir. Vous avez cité trois pays qui, effectivement, ont un temps d'avance sur les autres. Les autres pays européens, nos voisins les plus immédiats, sont, je crois, à peu près dans la même situation que nous. L'essentiel pour moi, c'est que cette vaccination nous donne un horizon, que cette vaccination nous permette de sortir de la crise épidémique. Parce que quand on sort de la crise épidémique, on sortira de la crise économique.
On va conclure, mais vous avez parlé justement de la crise économique. Est-ce qu'il peut y avoir une crise sociale et même au-delà? L'économie résiste, mais les Français beaucoup moins. Ils sont lassés, usés, pour certains abattus. Est-ce que vous craignez des tensions sociales, des bouffées de violence, voire plus?
Il y a évidemment une lassitude et elle est normale, on la partage. On vit toutes et tous avec des contraintes qui sont difficiles et ce sont des décisions difficiles qui sont prises. Je pense que les Français ont tout à fait conscience que leurs efforts peuvent payer, que ce qu'ils font pour se protéger et nous protéger collectivement.
Parce que c'est le dernier confinement.
Je l'espère, comme
jusqu'au
tout le monde.
Jusqu'au prochain.
Mais vous savez, ni vous ni moi ne pouvons connaître l'évolution de la crise épidémique. Par contre, nous pouvons avoir le même espoir, c'est qu'on en sorte.
Merci Olivier Dussopt. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien
merci.
Sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info dans un instant, la météo, Laurent Cabrol, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, Marion Calais est avec nous, un nouveau point sur l'info.
Et les coiffeurs rejoignent donc ce matin la liste des commerces essentiels qui resteront donc ouverts en zone confinée à partir de demain. Île-de-France, Hauts-de-France, Seine-Maritime, Eure, Alpes-Maritimes. Confinement 7 jours sur 7, dès minuit et pour un mois, avec limitation de déplacement sans durée de temps, 10 km autour du domicile, attestation de nouveau obligatoire. Le couvre-feu est décalé à 19h dans toute la France. Ambition du gouvernement, freiner l'épidémie sans enfermer, selon les mots du Premier ministre Jean Castex, qui a confirmé la reprise des injections des vaccins AstraZeneca après l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Avant cela, tout de même, une dernière étape à franchir. La Haute Autorité de Santé doit se prononcer ce matin, Anne Le Gall.
Oui, ce matin, la Haute Autorité de Santé dira si elle modifie ou pas les conditions de prescription. Et ensuite, pour ceux qui veulent se faire vacciner avec AstraZeneca, ce ne sera pas tout de suite en pharmacie, comme prévu initialement, car les 18 000 officines qui s'étaient portées volontaires pour vacciner n'ont pas récupéré leur dose de vaccin avec la suspension de la campagne. Elles pourront les récupérer plus tôt la semaine prochaine. Mais ce que redoute Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, ce n'est pas tant la perte de temps que la perte de confiance des patients.
Il y a eu des cas de personnes qui nous ont appelés pour s'enlever de la liste, effectivement. C'est assez catastrophique pour la confiance. Donc là, nous avons beaucoup de gens qui sont encore volontaires pour se faire vacciner, évidemment. Donc on va commencer par les volontaires. Et à partir de ce moment-là, les gens, a priori, un petit peu comme pour le vaccin Pfizer au départ, verront qu'en fait, il n'y a pas de problème et ils reviendront se faire vacciner.
Et pour se faire vacciner aujourd'hui ou demain avec AstraZeneca, il faudra donc plutôt se tourner vers son médecin généraliste ou alors trouver un rendez-vous en centre de vaccination. Le gouvernement garde l'objectif de vacciner 10 millions de Français d'ici mi-avril.
Anne Le Gall pour Europe 1. Ils sont décédés alors qu'ils participaient à la lutte contre l'épidémie. Hommage de l'État aujourd'hui à 14 soignants français et étrangers. Ils sont élevés à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Après la Russie, Washington se confronte à la Chine. Discussion en ce moment entre les deux pays en Alaska. Hier, le secrétaire d'État américain a dénoncé tour à tour le génocide commis contre les Ouïghours et les cyberattaques contre son pays. Le plus haut diplomate chinois appelle l'Amérique à abandonner sa mentalité de guerre froide. Ils débuteront le 6 avril les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort à la mi-journée au siège de l'UEFA en Suisse. On connaîtra l'adversaire du PSG. Les footballeurs qui disputent des matchs internationaux la semaine prochaine. Cette semaine, les clubs, par crainte de contamination, ont annoncé qu'ils ne libéreraient pas les joueurs amenés à évoluer hors de l'Union européenne. Le syndicat des joueurs professionnels dénonce une discrimination et en appelle à l'État pour corriger le tir.
Merci Marion Calais, 8h34 sur Europe 1. Laurent Cabrol avec nous, la météo.
Bah oui, pour vous dire que cette journée de vendredi sera une journée en constante amélioration. Pour l'instant, quand on regarde les images satellites, on n'est pas très rassuré parce qu'on voit sur une grande moitié nord, une grande moitié sud et surtout dans le sud-ouest, on voit énormément de nuages avec de la pluie. Mais tout ceci va passer puisque l'anticyclone est en train de pousser. Donc la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes sont déjà presque sous le soleil ou en tout cas sous les éclaircies. Et l'Aquitaine, la vallée de la Garonne, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, les Alpes-Maritimes. Pour des raisons différentes, toutes ces régions verront le ciel se dégager dans l'après-midi. Et puis si vous habitez le nord, la Champagne-Ardenne, la Normandie, l'Île-de-France, le Berry, la Franche-Comté, la région lyonnaise, la vallée du Rhône, les éclaircies seront beaucoup plus rapides à s'imposer, et en particulier dans la matinée. Enfin, sur les piémonts pyrénéens, bon, c'est pas terrible, hein, ça restera quand même très, très nuageux et pluvieux. Que dire encore ? Des régions comme le massif des Vosges, du Jura et des Alpes, c'est pas des régions, c'est des massifs. Il neigera à partir de 300 mètres et nous aurons là un temps qui restera bien sûr très encombré. Attention au vent, bon sang, bonsoir. Le vent 40 à 50 km/h, il vient du nord, il accentue le froid. Prenez des couvents, donnez ce qu'il faut aux enfants. Couvrez-vous, mais ça, c'est pas la peine d'exagérer.
Il y a forcément quelqu'un qui a sursauté dans sa cuisine, là. Je veux venu avec son café, sa biscotte, la côte. Attention au vent, d'un seul coup. Il arrive, 40 km/h non plus, c'est pas la tempête. Hein.
Non, mais 40,
mais il est froid.
Quand il fait froid, c'est bien ça. Bah, demain et après-demain, il y aura encore beaucoup de vent. Demain, ça sera plutôt éclairci. Si vous avez le droit de sortir, profitez-en. Et puis dimanche, ce sera couvert sur la moitié nord et ensoleillé sur la moitié sud. Et la semaine prochaine, ce sera une semaine très, très anticyclonique. Mais je vous en parlerai parce que c'est pas aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il va faire très très beau, ça veut dire qu'il pleuvra.
Qu'il va faire froid. Surtout. Bien 8h35. Merci Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1, on prend soin les uns des autres dans un instant. Jimmy Mohamed, notre santé.
Oui, les Français dorment de plus en plus mal depuis le début de la pandémie et vous allez voir que le cerveau adore la routine et que le sommeil se prépare dès le réveil.
Et pour ceux qui ont raté le réveil, il y a Laurent Cabrol qui arrive toujours à un moment. Attention au vent, comme ça qui, hop, vous sortez du lit. 8h36, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On va parler du sommeil des Français. Certaines études montrent que le sommeil des Français est perturbé, on en a parlé hein, en début de semaine, depuis le début de la pandémie en particulier. Pourtant, il est important, si ce n'est essentiel, de prendre soin de son sommeil.
Exactement. Près d'un Français sur deux s'est plaint de troubles du sommeil depuis le deuxième confinement et ce sommeil se porte de plus en plus mal depuis le début de la pandémie. Au stress s'ajoute désormais l'incertitude, d'autant plus que nos modes de vie ont été un peu chamboulés. On passe de plus en plus de temps sur les écrans, notamment à cause du télétravail, écrans qui vont émettre de la lumière bleue, rappelez-vous, comme celle du ciel, qui va perturber l'hormone de la nuit, la mélatonine. Nous sommes moins actifs, nous bougeons moins, et donc ce qu'on appelle la pression de sommeil en fin de journée va être plus faible et responsable de difficultés à l'endormissement. La seule chose qu'on oublie, c'est que le sommeil peut malgré tout nous aider à surmonter cette crise, notamment en stimulant notre système immunitaire. On le sait, la privation chronique de sommeil est responsable d'une moins bonne défense immunitaire. Et les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit ont 4 fois plus de rhume que les autres. Ça vous laisse songeur.
Avez-vous quelques conseils simples pour mieux dormir là ? Des conseils qu'on pourrait presque noter en vous écoutant ce matin ?
Alors le premier conseil, c'est d'aller voir votre médecin uniquement pour ce motif. Souvent, j'ai constaté ça, les patients nous parlent de troubles du sommeil en toute fin de consultation, au moment où on a de moins en moins de temps à leur consacrer. Ensuite, essayez de retrouver un rythme. Je vous ai dit, le cerveau adore la routine. Le sommeil se prépare donc dès le matin. Essayez de vous lever un peu plus tôt, de vous habiller même si vous êtes en télétravail, de déjeuner à table à heure fixe et de prévoir une heure de fin de travail. Enfin, n'oubliez pas qu'en fin de journée, il faut prévoir ce qu'on appelle un sas de sommeil, c'est-à-dire une période de transition entre la fin de votre journée et le moment du coucher. Vous prévoyez environ une petite heure, un peu comme les enfants, avec un rituel de coucher durant lequel vous pouvez pratiquer une activité monosensorielle, c'est-à-dire une activité qui va stimuler un seul sens. Ça peut être de la lecture par exemple ou écouter de la musique. Et en faisant ça, vous allez peu à peu éteindre les autres sens et je l'espère vous endormir de la meilleure des façons.
Alors si je passe une heure à raconter une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment, ensuite je les réveille pour qu'ils me racontent une histoire ?
Non, vous vous endormez avec eux et tout va bien.
Dans son rendez-vous aujourd'hui, tiens, un sujet qui concerne beaucoup de gens, quand les parents se séparent.
Exactement, nous recevrons une psychologue justement pour aborder ce thème parfois un peu difficile, mais vous allez voir, on a quelques solutions à proposer pour surmonter ce cap.
Sans rendez-vous, c'est l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h avec Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed. Donc 8h40, merci Jimmy. Notre planète, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ah oui, parlons de la pollution par les mégots. Terrible pollution qu'il faut ralentir et la ville d'Osgor rejoint les villes qui interdisent le tabac sur les plages.
Oui, alors c'est vrai que j'anticipe un peu les vacances d'été en pariant sur un retour à la normale et un retour sur les plages. Mais à partir de juin 2021, sachez-le, il sera interdit de fumer des cigarettes sur les deux plages les plus fréquentées à Osgor. Le conseil municipal l'a voté à l'unanimité et y a ajouté des collecteurs de mégots à l'entrée des plages et dans la ville elle-même. L'idée est d'encourager plutôt que de réprimer, mais la mesure est la bienvenue tout de même, à la fois pour diminuer le tabagisme passif des nombreuses familles qui fréquentent ces plages et pour diminuer la pollution des eaux. Osgor n'est pas la première ville de France d'ailleurs à opter pour un couplage de l'interdiction et de la prévention. Les villes de Mimizan et Cap-Breton ont pris des arrêtés municipaux similaires.
Oui, on n'est pas très loin d'Osgor pour le coup avec Mimizan et Cap-Breton. Les mégots sont d'ailleurs la première source mondiale de pollution de l'eau si je ne me trompe pas. Hein.
Oui, affirmatif. 5200 milliards de cigarettes sont produites chaque année et si elles ne représentent que 40% des déchets collectés en ville, il y en a énormément qui finissent d'une manière ou d'une autre dans la nature. Et ces mégots, ils mettent 12 ans en moyenne à se dégrader, notamment à cause de l'acétate de cellulose. Et pendant ce processus de dégradation, un mégot peut polluer, un seul mégot, hein, peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau.
L'acétate de cellulose, c'est ce qui est dans le filtre ? Mmh. Oui, le mégot de cigarette, quoi. Et puis, pour les plages où l'interdiction n'est pas encore de mise, un moyen pour lutter contre la pollution pourrait nous surprendre. Alors, écoutez bien, des corbeaux pour ramasser les mégots.
Oui, des corbeaux et des mégots. Animal ultra intelligent, hein, Mathieu, le corbeau est très facile à apprivoiser. Non, mais je vous assure, le mégot et le corbeau. Alors, aux Pays-Bas, sachez qu'on a recours effectivement à eux pour ramasser les mégots jetés négligemment sur les trottoirs des villes. En France, on le fait aussi, notamment dans les parcs de loisirs comme le Puy du Fou, qui fait aussi appel au corbeau, dont la vue pour repérer sa cible est imbattable. Il est capable de ramasser un seau entier en les déposant un par un avec son bec. Ce genre de collecte qui vient pallier les incivilités de certains permet aussi de faire de la pédagogie et d'encourager les personnes à utiliser les collecteurs de mégots et les cendriers dédiés. Un moyen non répressif de diminuer la pollution liée à ces bombes toxiques et d'attirer l'attention sur ces animaux, les corbeaux, qui n'ont pas bonne réputation et qui, là, pour le coup, eh bien, nous montrent l'exemple.
Ils n'ont pas bonne réputation, c'est tellement intelligent. Tous les corvidés, d'ailleurs, toute la famille des corbeaux, c'est tellement malin. Bon, pour ramasser c'est des mégots vrai. Aussi, ça peut être utile. Merci Fanny Agostini. Notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1, 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard, c'est à vous pour les infos du jour.
Oui, ma chère Julie, l'info du jour, vous savez, c'est le truc, l'espèce de reconfinement, voilà, c'est le mot. Hein, mais, enfin, reconfinement, pas exactement, avec sortie illimitée jusqu'à 19h au lieu de 18. Un confinement déconfiné, mais dans lequel on reste quand même confiné. C'est un concept, c'est de l'art moderne.
Ça, oui.
Et puis, l'autre info, allez, c'est Jean Castex qui va se faire vacciner, vous le savez, cet après-midi avec AstraZeneca.
Oui.
Et avec le bol qu'on a, vous allez voir qu'il va réussir peut-être à nous faire une thrombose. Mais pourquoi, hein, au point où on en est, Julie. Hein, on ne sait pas. À vous, Julie.
Allez, merci Mathieu. On va revenir sur les annonces de Jean Castex justement hier. Hein. L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont reconfinés pour 4 semaines. Bonjour Jean Castex.
Bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Pétard. Bonjour à papy et à mamie qui vont pouvoir, grâce à ces 4 semaines, pouvoir apprendre papy et mamie à se redécouvrir.
Oh.
Un petit retour de flamme, peut-être.
C'est ça.
À la maison, sur le canapé.
Bon, c'est bon, non, oui.
Autre question sur un champion, je
ça
ne sais
ira.
Quoi.
Ils ont pensé à tout.
On a l'image. Alors, ce reconfinement, au départ, on a dit qu'il n'aurait lieu que les week-ends, mais Emmanuel Macron trouvait ça trop contraignant.
Exactement. Un confinement, les week-ends étaient trop pénibles, nous en conviendrons tous. Du coup, nous avons préféré un confinement une semaine plus. Week-end.
Exactement.
Parce que c'est moins pénible. Si.
C'est moins pénible.
Oui, comme ça, vous n'êtes pas, écoutez, vous n'êtes pas dégoûté de ne pas profiter de vos week-ends, vu que vous ne profitez pas de vos semaines non plus.
Oh là là, la logique là-dedans. Et le couvre-feu est retardé à 19h.
Oui. Et il était, Madame Leclerc, nécessaire de serrer la vis. Et si le virus, bien sûr, si le virus ne baisse pas, nous serons encore plus sévères en le repoussant, ce couvre-feu, à 20h, voire 21h.
Mais pourquoi 4 semaines? Pourquoi?
Ben pour rien. Et c'est comme ça, c'est pour voir. Et si on voit, je vous dis, notre stratégie, et si nous voyons que cela fonctionne, nous le prolongerons pour être débarrassés de cette épidémie. Et si l'on voit que ça ne marche pas, nous le prolongerons aussi pour lui laisser le temps de fonctionner.
Oh là 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 là, bon. Dernière chose, le vaccin AstraZeneca est à nouveau prescrit.
Parfaitement. Et d'ailleurs, papy et mamie... Jean, tu tombes bien, Jean.
Oula.
Jean, bonjour Jean. Aujourd'hui, tu vas te faire vacciner, ok, avec le AstraZeneca. Hein, les gens n'en veulent plus. Ils pensent que c'est dangereux, donc tu vas te faire piquer, ça va les rassurer.
Non, monsieur le président, j'ai annoncé ça hier, un peu à brûle-pourpoint, vous êtes sûr? Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Ça les rassurerait vraiment.
Non, écoute, tu commences pas, Jean. Hein, toi, t'es vieux, t'es prioritaire, ok? Je comprends que tu aies peur que ça se passe mal, Mais sois rassuré, si tu as des effets secondaires, tu peux être tranquille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens formidables qui pourront prendre ta place, tu sais. Puis on pourra se débrouiller. Hein. Voilà, allez. Et puis n'oublie pas, pour la photo, pour les médias, tu contractes bien les biceps, que tu sois au moins aussi sexy qu'Olivier Véran. Okay, enfin, disons au moins télégénique, aussi télégénique. Okay, merci.
Merci à tous les deux. Ces nouvelles restrictions vont-elles être efficaces? On va en parler avec le généticien Axel Kahn. Il a eu du succès hier, il revient du coup. Hein. Axel Kahn, un de nos plus grands scientifiques. Bonjour.
Écoutez, j'ai décidé de ne plus critiquer les mesures du gouvernement. Prendre une telle mesure, c'est complètement débile. Hein, non, je ne veux pas critiquer Emmanuel Macron, mais enfin, franchement, ça ne va pas marcher. On est parti pour 3 mois de restrictions, vous savez. Je suis catholique. Eh bien, ça va encore nous ruiner Pâques. Et pour la chasse aux œufs, c'est foutu.
Bon, ben pourquoi ces mesures ne pourraient pas marcher?
Écoutez, j'ai décidé de ne plus critiquer les Parisiens. Enfin, on connaît tous Parigot tête de veau. Hein, ils ne vont rien respecter du tout. Vous savez, je suis musulman. Bien, pour l'aide quel kébir, mon avis, le couscous, on peut s'asseoir dessus.
Alors, un mot du vaccin AstraZeneca qui est à nouveau prescrit. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle, Axel Kahn.
J'ai décidé de ne plus critiquer AstraZeneca.
D'accord.
Enfin, qui va en vouloir? Franchement, on est mal parti. Je suis de confession juive. Bah, parti comme ça, pour Yom Kippour et Rosh Hashanah, ça s'annonce mal. C'est dommage, parce que j'adore la carte farcie.
Bon, écoutez, on va en rester là. Merci, Axel Kahn. Allez, on va parler d'autre chose. Le metteur en scène Alain Françon a été poignardé en pleine rue à Montpellier. Roselyne Bachelot, bonjour.
Oui, oh, Madame Julie. Mmh. Eh bien, voilà. De toute façon, ça, c'était une évidence. J'avais dit, après une cérémonie des Césars aussi ratée... Vous m'étonnez que les gens aient envie de poignarder des metteurs en scène, oui, bien sûr. Ah ben écoutez, ça devait arriver, elle doit avoir du mal à se regarder dans une glace matin aujourd'hui, Corinne Mazero. Tout ça c'est à cause d'elle. Bien sûr, tous mes voeux de rétablissement à Monsieur Françon.
En tout cas, la grogne ne faiblit pas, les occupations de théâtre se sont multipliées cette semaine, après le théâtre de l'Odéon, des théâtres à Lille, Lyon, Limoges ou Saint-Étienne. Une 60aine de lieux sont occupés.
Oui, écoutez, ces théâtres ne sont occupés que par une poignée d'extrémistes. On a l'habitude, vous savez que les théâtres sont vides d'habitude, à l'exception d'une dizaine de dingos qui pensent que la vision d'un chorégraphe turkmène est indispensable à la société. Mais c'est le cas de tous les spectacles de danse contemporaine.
Oui, enfin là, quand même, le mouvement prend de l'ampleur. Le théâtre de Pau aussi est occupé par une vingtaine de personnes.
Oui, oui, mais c'est bien 20 personnes à Pau dans un théâtre. Ça doit rappeler à François Bayrou ses plus grands meetings.
Oh non. Certains intermittents se mobilisent pour une occupation 24 heures sur 24. Il y en a même qui dorment dans les théâtres.
Qui dorment dans les théâtres. Bah oui. Et alors, je pose des questions.
Quoi?
Oui, alors, mais qu'est-ce que ça d'extravagant? Moi aussi, j'ai déjà dormi au théâtre. Et très souvent. Devant la moitié des pièces que j'ai vues, toutes ces histoires de frères qui s'écrivent des lettres pendant la Première Guerre mondiale. Hein, avec du piano triste derrière, une bande-son avec des bruitages de pluie, pardonnez-moi, et des cris en allemand. Hein, et puis des puits de lumière bleue. Mais moi, je ronfle en 10 minutes. On l'a tous vécu, ça. Attention. Après, attention, je plains quand même les intermittents.
Bah oui. Oui,
ben oui, parce que d'expérience, je sais que c'est très douloureux de dormir sur un strapontin. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, certes, je ne peux pas rouvrir les salles, mais je peux leur envoyer des ostéopathes.
Oui, c'est ça. Allez, bon. Merci, Madame la ministre de la Culture.
On avance. Il y a des stratégies mises en place.
Oui, c'est bon, Roselyne. Merci. Il devait nous faire une grande annonce hier, mais on a manqué de temps, donc on accueille aujourd'hui Jean Lassalle, qui est avec nous ce matin.
Oui, bonjour. Alors, vous savez qu'hier, vous avez coupé le sifflet.
Oui, bon, ben, ça arrive à 20.
Alors que j'avais mon coton-tige, qui est toujours là. Je n'ai pas pu sortir dans la rue, car il me gêne pour la respiration. Donc j'ai dormi dans le couloir de repas. J'ai pu profiter
quoi ?
J'ai croisé Émilie Mazoyer, très sympathique. Bravo. J'ai passé toute la nuit en Europe 1, hein, j'ai écouté Olivier Lacroix que j'ai croisé aussi. J'ai même vu ce matin Sébastien Krebs.
Oui, mais enfin bon,
bref, vous savez que je m'étais fait un test PCR dans mon nez. Le test est tombé pour les auditeurs qui ne connaissent, qui n'ont pas entendu hier. Mon test PCR est tombé dans ma narine, impossible de retrouver. Donc je vous fournis, Madame Julie, tenez.
Quoi ?
Tenez, voilà. Ah, c'est un casque de spéléologie.
Oui.
Une corde. Oui. Est-ce que quelqu'un peut regarder la montre ?
Ah, bah, pas moi.
Hein, Monsieur Béliard.
Mathieu. Oui.
Allons-y alors.
Oui, attendez. Faites-moi retourner. Oula, c'est grand. Eh oh ! Eh oh !
Eh oh !
Ah oui, il y a du boulot ! Attendez.
Non mais dites, on va pas passer une journée à fouiller dans votre nez. Allons, monsieur Lassalle, qu'est-ce que vous nous voulez ? Vous avez une annonce à faire ?
Alors, attendez, je branche mon tourne-disque.
Ah bon ?
C'est un tourne-disque à peine des Landes. Et le diamant, c'est pas un diamant, c'est une petite pomme de pin à l'envers. Français, française, je parle un peu du nez avec mon coton-tige. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle 2022 afin d'incarner la joie malgré les crises. Vive la République, vive les sangliers et vive la France. Alors, ça vous a bouché un coin. Hein.
Mais enfin,
au-delà de boucher, bon.
Non, mais, attendez, Jean Lassalle, on savait, c'est paru dans la presse cette semaine.
Oui, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé ?
Bah écoutez, il y a d'autres sujets quand même dans l'actu. Une épidémie, un reconfinement, vous avez fait 1% l'année dernière, il y a des choses plus importantes, hein, c'est tout. Et puis pourquoi vous vous représentez d'ailleurs ? Vous allez à nouveau faire 1%, il y a des choses. Hein.
1,2. Cette année, j'ambitionne d'être au second tour, car il faut incarner, vous le savez, Laurent Cabrol est un de mes signataires, il faut incarner l'espoir d'une alternative au président Macron. Emmanuel Macron, c'est la start Top Nation, les smartphones, le nucléaire, le Facebook et la télé en 5G. Moi, je propose une autre voie. La vraie alternance en offrant aux Français la village nation. Les téléphones à cadran, les feux de cheminée, les pigeons voyageurs en termes de communication et les soirées qu'on passe à tricoter un pull sans manche. Admettez, je serai le seul à proposer cette nouvelle vision néo-moderne de la France pour 2022. Ouais, maintenant, si quelqu'un peut m'aider quand même à retrouver mon coton-tige, où il faut que je fasse venir un peloton de gendarmerie de haute montagne.
Oui, faites donc ça. Faites ça.
Bon, vous savez, il y a 2-3 Parisiens là, à la gare Montparnasse qui sont prêts à aller dans la village nation. Hein.
Ah, oui.
Qui sont prêts à quitter 2 secondes la 5G de Paris ce week-end, évidemment. Bon, merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque à retrouver sur Europe1.fr. 8h56. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média. La matinée continue sur
Exactement.
Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre infomédia du jour va se concentrer sur le succès phénoménal de la série En Thérapie. Vous l'avez vu ?
Oui, j'ai terminé même.
Ouais, plus de 40 millions de vues sur Arte.tv. C'est un record pour cette plateforme. Comment Arte construit sa stratégie et quels sont les prochains projets à venir ? Réponse avec le directeur de l'unité fiction de la chaîne, c'est Olivier Wotling. Au sommaire également, le presque 100e épisode de la série phare. Ici, tout commence sur TF1. Je dis presque parce qu'il devait être diffusé ce soir. Mais comme hier, il y avait Jean Castex, il sera diffusé lundi au lieu d'aujourd'hui. On sera avec l'un des comédiens phares de la série, Agustine Galiana et la productrice Sarah Faramante. Au passage, seule bonne nouvelle, reste ouvert les librairies et les disquaires. Et bien justement, musique, on sera avec le chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, qui va nous présenter son nouvel album Est-ce que tu sais ? Et puis il aura sa propre émission musicale sur FR3 Bretagne.
C'est noté, Culture Média de 9h à 11h. Je
m'attendais aussi, trace la route.
Il me montre du doigt en disant Bretagne. Moi, c'est et Normandie, monsieur Vandel.
Je sais, mais il trace la route vers la Bretagne, on peut le retrouver à Montparnasse.
Je plaisante évidemment, c'est pour ça, la gare Montparnasse, on va y arriver. Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi et dimanche. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.